que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, nous allons aborder à présent notre premier thème de cette émission. On va parler des espaces verts qui disparaissent peu à peu dans les grands centres urbains du pays. Ils sont remplacés par des maisons, magasins, immeubles et autres bâtisses. Et pourtant, ces espaces, avec toutes leurs composantes, participent à la protection de l'environnement et au bien-être de la population. Alors, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui M. Théodore Lokakao, environnementaliste, encore une fois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons des espaces verts. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par espace vert ?
Les espaces verts, c'est l'ensemble des espaces où on trouve la végétation et qui compose, qui est une partie, qui est une composante de la ville, hein, dans le cas de Kinshasa.
Mmh. Mmh. Donc là où on trouve la végétation.
Oui, donc verdure. En termes de passepalomes, en termes d'arbres, ces espaces-là constituent les espaces verts de la ville.
D'accord. Et quelle est l'importance de ces espaces ?
Bon, l'importance des espaces verts a été démontrée à plusieurs reprises. Lors de la conférence de Rio, on a dénoncé la réduction de la forêt. Donc, on a dénoncé les effets de la déforestation sur le réchauffement climatique. Et en 2005, l'ONU et la FAO ont qualifié d'alarmante cette déforestation qui serait responsable des 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, comme je disais tout à l'heure, à la conférence de Rio de 1992,
oui.
La conférence a décidé de lutter contre les déboisements, qui est l'une des priorités pour ces sommets de la Terre. Et les causes principales, comme on l'a dit déjà, c'est notamment ici à Kinshasa, c'est l'urbanisation.
Donc, l'urbanisation anarchique, si on peut le dire ainsi.
Anarchique et ordonnée aussi en même temps, parce que nous voyons de nouvelles routes qui arrivent, nous voyons de nouvelles infrastructures qui sont mises en place. C'est une bonne chose pour améliorer les conditions de vie de la population, mais parallèlement, on devait penser à reboiser, à augmenter aussi, disons, les espaces verts.
Alors, ces espaces, on a l'impression qu'ils disparaissent au quotidien. Il y a des terrains de football qui sont remplacés par des magasins. Il y a même certains endroits qui étaient libres où les gens pouvaient aller se reposer. On trouvait des pelouses et des endroits de bière. On n'a plus assez des espaces comme ça dans
nos
villes.
Oui, c'est un des éléments que nous mettons dans le projet. Les nouveaux projets de développement urbain.
Regardez par exemple en face du Palais du Peuple, il y avait un espace vert à cet endroit-là. Il a disparu.
Oui, on devait à la place compenser cet espace vert par un autre espace vert. C'est vrai que c'est nécessaire de mettre en place des infrastructures, mais on ne devrait pas pour autant éliminer la végétation qui participe à l'amélioration des conditions climatiques de la ville. Parce qu'en fait, la végétation a trois pouvoirs. Nous parlons du pouvoir d'auto-épuration, pouvoir d'auto-régulation et pouvoir de régénération. En fait, c'est quoi ? La végétation participe au cycle de l'eau en produisant de la vapeur d'eau. La végétation arrive à produire l'humus qui enrichit le sol. Et la végétation libère l'atmosphère de carbone qui participe à l'augmentation de la température par l'effet de serre.
Oui, vous avez dit que la végétation participe d'abord à l'auto-épuration.
À l'auto-épuration.
Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Oui, donc la végétation, vous connaissez l'effet de photosynthèse, la végétation nous aide pendant la journée à produire de l'oxygène et pendant la nuit à absorber le carbone qui se trouve dans l'air. Or, ce carbone, en se combinant avec l'oxygène, nous avons les gaz carboniques. Et notamment, bien sûr, nous aussi, humains, par nos véhicules, nous produisons les gaz carboniques avec tous les véhicules que nous avons dans la ville. Mmh. Et la végétation nous aide à réduire la quantité de carbone que nous avons dans l'atmosphère. Et ça participe à réduire les effets de serre.
C'est ça l'auto-épuration.
L'auto-épuration.
Oui, deuxièmement, qu'est-ce que...
Il y a l'auto-régulation, et la végétation émet dans l'atmosphère de la vapeur d'eau. Et ça permet aussi de contribuer à la pluviométrie. Et ça permet de faire des équilibres dans les constituants de l'atmosphère, en termes de carbone, en termes d'oxygène.
Et comment elle émet cette vapeur d'eau ?
Et à travers ses pores, hein, dans les pores qu'on a sur le feuille. Donc la végétation tire de l'eau dans le sol mm-hmm. pour son fonctionnement. Et puis... Après, elle remet dans l'atmosphère une quantité d'eau dont elle n'a pas besoin et cette quantité sort sous forme de vapeur d'eau. Donc, c'est un gaz sous forme de gaz mmh. qu'on ne peut pas voir.
Voilà. Et ce gaz-là va monter et puis ça va former les nuages.
Ça va participer aux autres évaporations et tout ça. Ça va constituer la vapeur d'eau de l'atmosphère mmh. qui va plus tard se condenser, former des nuages et tomber sous forme de pluie.
D'accord. Et troisièmement, vous avez parlé de la fonction...
De régénération.
Régénération.
Oui, parce qu'en fait, vous constaterez que là où il n'y a pas de forêt, la terre petit à petit devient sèche ou devient aride. Donc, grâce à la présence de la végétation, cette végétation, avec tout le feuillage qui tombe et tout ça, ça va créer l'humus et cet humus va fertiliser les sols. Donc ça fertilise le sol. La présence de la végétation permet au sol de rester plus ou moins fertile. Mmh. Sa disparition va petit à petit assécher les sols parce qu'en fait l'absence de la végétation va faire que le sol petit à petit va être lessivé, perdre ses éléments fertiles et le sol à la longue devient aride.
Voilà, le sol à la longue devient aride. Quelle est l'importance des espaces verts dans une ville? On en parle avec Théodore Lokakao, environnementaliste. Nous avons déjà trois auditeurs en ligne, Dieu merci, nous appellent des Kisangani, Gaston Ganlou et Takinchessa, et Meminaku, Aïsiro.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelle est l'importance des espaces verts dans une ville? Dieu merci, nous appelle des Kisangani, bonjour. Dieu merci, vous êtes à Kisangani, bonjour. Dieu merci n'est plus là. Gaston Gandou est à Kin, bonjour. Et quelle est votre question?
Merci, je dis à vous aussi bonjour. J'ai quatre petites questions.
Oui.
J'ai entendu l'invité dire par rapport aux espaces verts, à mon avis, ces espaces, nous constatons que les gens achètent ça, mais moi je pense que ces achats-là, ce sont des achats illégaux. Que pense l'État dans le cas d'espèce? Parce que c'était décidé que ces espaces devraient rester comme ça et que nous constatons qu'on vend ça. Que pense l'État dans le cas d'espèce par rapport à ceux qui ont acheté, qui se trouvent dans ces espaces-là? Mais je voulais aussi, parce que je constate que dans notre pays, c'est pas vraiment important d'avoir ces espaces verts. Vous voyez tout ce que nous avons comme végétation. Nous, on va pas souffrir vraiment de ces changements climatiques. Mais si on ne pouvait pas remplacer ces espaces-là par l'agriculture familiale, donner ça aux mamans qui s'occupent de l'agriculture familiale, comme dans la ville, de pouvoir œuvrer là-dessus, pour garder aussi l'esthétique dans la ville. Mais je constate aussi petit à petit les remplacements de ces espaces-là par rapport avec les jardins qu'on trouve dans des parcelles. Est-ce que ça ne pouvait pas aussi être une forme de reboisement et puis concevoir d'une autre manière ces espaces verts qu'on trouve dans des parcelles actuellement.
D'accord, merci. Gaston, Aimé Minakou, vous êtes à Issiro, bonjour.
Bonjour, jeudi, on est également l'invité.
On vous écoute. Hein.
Oui, j'ai qu'une seule question à savoir. Elle est comme suite. On constate que dans des grandes villes, il n'y a pas vraiment assez des espaces verts. Disons, il y a une forte concentration des populations. Il y a de ceux qui viennent des villages, ils préfèrent mieux vivre en ville. Et c'est ce qui cause une forte concentration des populations. Mais là, ma question était de savoir comment peut-on créer cet espace-là aussi longtemps qu'il y a une forte concentration des populations, surtout dans des grandes villes. Comment peut-on faire pour créer ces espaces-là? Merci.
Bien, merci. Gentil Lumana de Kananga, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du show.
Bonjour.
Je voulais poser la question pour vous dire que les gens qui possèdent, les provinces qui possèdent déjà l'espace vert, quelles sont les stratégies pour garder l'espace vert? Quels sont les avantages de l'espace vert? C'est la question que je pose à l'invité du show.
Bien, merci, gentil. Un Théodore le cacao. Commençons par Gaston de Kinshasa qui dit, bon, il n'y a plus des espaces verts. Que pense l'État? Bon, ça, c'est pas une question qui, vous êtes expert à l'environnement. Vous ne représentez pas le gouvernement congolais. Alors, il dit, sa deuxième question, comment remplacer, est-ce qu'on peut remplacer ces espaces, comme ces espaces n'existent plus, est-ce qu'on peut, les remplacer, par exemple, par, l'agriculture familiale, qu'on donne des terrains, des espaces aux mamans pour l'agriculture familiale?
Bon, d'abord, je voudrais souligner une chose. C'est que la ville de Kinshasa a son plan d'aménagement officiellement légalisé depuis 1967.
Donc, mais ce plan aujourd'hui doit être revu, doit être actualisé avec les réalités.
Actuellement, nous sommes en train d'ailleurs de faire un nouveau plan qui est plus ou moins à la fin, qu'on appelle le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, qu'on appelle SOSAC, financée par l'Agence française de développement. Et c'est dans ce plan, dans ce nouveau plan, qu'on va réaménager, qu'on va repenser la ville, qu'on va faire le nouveau modèle urbain d'ici l'an 2030. Et c'est dans le plan général d'aménagement que toutes ces questions trouvent les réponses. Et jusque-là, donc, nous avons fonctionné d'une façon, je dirais, anarchique, chacun voulant faire ce qu'il pensait être juste.
Et il y a eu, prenons par exemple la pépinière de Bandalou, quoi. C'est les mamans pratiquaient l'agriculture familiale, mais oui. Cet espace a été remplacé par des bâtiments.
Des bâtiments, oui. Mais cela n'empêche pas que, dans le plan général d'aménagement, on puisse repenser comment compenser cette perte d'espace vert, comme par exemple la pépinière de Bandalou. Aujourd'hui, par exemple, il y a une commission intersectorielle au niveau du ministère de l'Environnement qui est en train de réfléchir comment reboiser le boulevard Lumumba de la première rue jusqu'à l'aéroport de Njili. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'augmenter les espaces de végétation de la ville pour atténuer les effets du climat, les effets des changements climatiques sur notre ville.
Il y a également un bosquet là à Massine, à Sanfil, au quartier 1, Eucalyptus, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, cet espace existe toujours?
C'est parti en grande, disons, au 3K au 4-5e.
Remplacé par des bistrots, bars, l'Enganda?
Non, l'Enganda a disparu. On va faire une station de la Régie des Eaux qui sera là. Je crois que c'est une infrastructure d'utilité publique. Ce n'est pas pour autant que...
Donc on comprend bien que les espaces verts ne sont pas bien protégés.
Non, c'était déjà prévu depuis longtemps qu'à cet endroit-là sera érigée la station de la Régie des Eaux.
Voilà, et une autre question, Aimé Minakou dit, il y a une forte concentration des gens dans les grandes villes, les gens qui viennent des villages, qui préfèrent aller vivre en ville, et dit maintenant comment créer des espaces verts dans ces conditions-là.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est la création de ces espaces verts ne se peut se faire que dans un plan général d'aménagement. avec des études assez pointues, où on va faire des études sur l'augmentation de la population, et les infrastructures qu'on devrait mettre en place d'ici une quinzaine d'années, une trentaine d'années. Et en tenant compte de cette évolution, on pourra aussi intégrer les aspects environnementaux. Donc le développement urbain ne peut pas se faire aujourd'hui sans qu'on tienne compte des aspects environnementaux, notamment la création des espaces verts, la végétation autour de la ville, pour que la ville soit dans les meilleures conditions de vie pour la population.
Voilà, gentil Kalangadi. Alors comment préserver les villes, par exemple, où il y a assez d'espaces verts, comment les préserver?
La meilleure chose, c'est que l'autorité urbaine puisse veiller à ce que des agents administratifs véreux ne puissent pas vendre ces espaces. Parce que sinon, bon, tout va partir. Le problème, c'est ça. Ces espaces ne sont pas protégés, contrôlés, à ce moment-là, si on fait l'autorité ferme les yeux, bon, petit à petit, ils vont disparaître.
Donc il faut vraiment des mesures, il faut veiller.
C'est parce que
malgré cela, ces agents véreux arrivent toujours à vendre. Les espaces verts, ça disparaît au fur et à mesure.
Oui, bien sûr, ce sont des gens qui sont pas, ce sont déjà inciviques, parce qu'en fait, ils prennent en compte plus leur poche que les intérêts de la communauté.
Mais surtout quand il n'y a pas de sanctions, bon, ils vont continuer à le faire.
Ça aussi, oui.
Modeste nous appelle les Calémies. Nous parlons aujourd'hui de l'importance des espace vert dans une ville. Modeste, bonjour.
Bonjour, Jean-Denis, bonjour, monsieur l'invité.
Bonjour.
J'ai une seule question à poser.
Oui.
On vous écoute.
Quelles sont les sanctions proposées par la hiérarchie environnementale?
Oui.
Personnes qui se mettent à éliminer ou à occuper les espaces verts.
Oui.
Les sanctions prévues par les autorités à l'endroit de ceux-là qui occupent illégalement les espaces verts.
Bon, les sanctions, c'est de les chasser dans un premier temps. Mais on ne les chasse pas de façon désordonnée. Il y a des procédures administratives à respecter pour que ces gens soient délogés des espaces qu'ils occupent. Il faut les signifier d'abord de quitter les lieux. Et pour quelles raisons vous leur demandez de quitter, et ensuite respecter les procédures administratives à la matière.
Mais est-ce que vous avez des cas où on a déjà eu à chasser des gens qui ont occupé des espaces verts?
Bon, ici,
c'est très rare. Hein?
Ici à Kinshasa, bon, nous avons l'occupation, par exemple, de comment on appelle ça, le long du rail, là, vers Kingabwa. Les gens occupés ont loti, ont construit même des habitations.
Soko Paro,
c'est ça. Et l'autorité urbaine a été appelée à les déloger. Mais ça s'est fait en respectant les procédures.
Alors, est-ce que c'était un espace vert avant les lotissements?
Bien sûr, il y avait de la végétation autour de cet espace. Hein. Il y a le rail, c'est vrai, mais il y a aussi une bonne partie des herbes qui contribuent tant soit peu à alimenter l'atmosphère urbaine en vapeur d'eau.
Certains disent que ces espaces verts peuvent constituer des repères, peuvent devenir des repères des bandits, et des serpents et autres personnes mal intentionnées qui peuvent s'aimer l'insécurité la nuit.
Bon, c'est vrai que ça peut constituer le repère de bandits, mais c'est aussi une mission de l'autorité urbaine de mettre des dispositions sécuritaires pour que ces espaces ne constituent pas un danger pour la population.
Voilà. Alors, rappelez-nous alors les types des espaces. Vous avez parlé d'abord des endroits bien aménagés avec passe-palom.
Les endroits bien aménagés. Nous avons par exemple ici à Kinshasa les jardins botaniques. Nous avons, bon, dans le temps, il y avait le bois de la météo, par exemple, qui a disparu avec des habitations anarchiques. Vous avez au niveau de la Gombe, autour de
la place des Évolués.
Bon, il y a aussi des bois et des arbres plantés le long de la plupart des avenues dans la commune de la Gombe. Ça, c'est le cas qui est encore plus frappant.
Mais c'est pas sur le boulevard,
sur le boulevard.
Où les arbres ont été coupés pour les travaux d'agrandissement.
D'agrandissement du boulevard, mais il y a des projets de reboisement qui sont en cours. Après, je vous ai parlé du boulevard Lumumba, où actuellement il y a une commission intersectorielle au niveau du ministère national de l'environnement qui travaille avec les services urbains de reboisement. Et je crois que de là va sortir un programme de reboisement qui sera d'application parce que les fonds sont déjà disponibles.
Quelle est l'importance des espaces verts dans une ville? On en parle avec Théodore Le Cacao, environnementaliste. Jean des Dieux nous appelle dès qu'il quitte avant de l'accueillir. Nous vous rappelons que vous pouvez participer en nous écrivant au 081 890 63 94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quelle est l'importance des espaces verts dans une ville? Jean des Dieux, des Kikwits, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute.
D'accord. Je voulais d'abord pour ceci, par rapport à l'émission, du souci à Kikwit, les espaces sont normalement occupés. Et je dirais ceci, tous les espaces qui est maintenant construit, qui suscitent à Kikwit, ce n'est pas n'importe qui peut aller construire. Et je ne pense pas qu'il y a des sanctions parce que ceux qui ont fait de construire, ce sont les gens qui sont vraiment trop réputés. Et il n'y aura même pas moyen de les sanctionner parce que ce sont des places où, pour construire, vous devez beaucoup dépenser de l'argent. Et des espaces, c'est très important, surtout pour renforcer la culture de la foot. Nous n'avons pas des espaces pour faire même des entraînements et nous trouvons les enfants dans la rue en train de faire leurs entraînements. Cela crée beaucoup de problèmes. Je voulais aussi d'abord demander des préoccupations à notre invité par rapport à ça, parce que nous savons qu'il n'y aura vraiment pas suffisamment de sanctions à ces gens qui sont venus de construire anarchiquement. Maintenant, je voulais poser des questions à notre invité. Qu'est-ce que la loi prévoit? Je sais que nous ne sommes pas dans les matières judiciaires pour le moment, mais je voulais vous demander quelles sont les sanctions qu'on peut donner à ces gens-là qui sont en train de construire tout près du boulevard. Ils ne respectent pas la limite du boulevard. La deuxième préoccupation, c'est par rapport aussi au terrain que les enfants pouvaient occuper pour la foot qui sont maintenant occupés à la construction. Quelle est la sanction peut donner par rapport à ces gens-là? Je sais que c'est vraiment dur, mais qu'est-ce que l'invité pouvait nous proposer?
Merci beaucoup. Merci. Dieudonné Touloumé de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question, Dieudonné?
Merci de la parole, monsieur Jody. Moi, j'ai une seule préoccupation à poser à notre invité. Quel est l'impact des espaces verts dans des milieux qui ne sont pas électrifiés en occurrence la ville de Kananga où je suis? Car c'est dans ces espaces où s'opère l'insécurité, monsieur Jody. Merci beaucoup.
D'accord. Théodore Le Cacao, vous avez la parole.
Bien, d'abord à monsieur Jean des Dieux, je dirais tout simplement que le plan général d'aménagement d'une ville est toujours coulé sous forme d'une loi, opposable à tous. Et c'est maintenant à l'autorité de la ville de veiller à ce que tout le monde respecte ce plan général d'aménagement. Et quand on ne tient pas compte où il y a absence de plan général d'aménagement d'une ville, où toutes les composantes vont être intégrées, prises en compte, à ce moment-là, chacun croit que ce qu'il fait est bon, surtout s'il y a des intérêts personnels à sauvegarder.
Mm-hmm. Donc, parle surtout de ceux-là qui sont au pouvoir, qui ont une parcelle de pouvoir et qui se permettent de construire là où ils veulent, il n'y a pas de sanction.
Oui, mais cela n'empêche pas à la communauté locale de saisir l'autorité nationale, si au niveau ou même l'autorité provinciale, pour que celle-ci puisse réagir. Donc il faut que la population se conscientise, s'organise et se plaigne auprès de l'autorité urbaine. Et si ça ne marche pas, on va au niveau du gouvernement central. Ils ont des députés locaux, urbains, qui peuvent aussi les défendre. Donc il faut utiliser tous ces leviers, tous ces mécanismes qui peuvent les protéger contre ce genre de situations.
Voilà, Dieudonné dit à Kananga, il n'y a pas assez d'électricité, il n'y a pas assez de courant. Alors, à quoi servent les espaces verts? Parce que ça peut constituer les repères, comme je l'ai dit tout à l'heure, des malfaiteurs.
Oui, nous sommes en train de constater depuis un certain temps, c'est tout ça en Occident qu'on voit ça, que la disparition de la végétation a un impact important sur l'environnement, notamment sur la pluviométrie et sur le climat. Mmh. Donc, la disparition de la végétation ou des espaces verts dans nos milieux de vie est un danger permanent. Si aujourd'hui nous ne ressentons pas ça de façon assez aiguë, mais les générations futures vont s'en plaindre et vont nous maudire de n'avoir pas pris des dispositions pour protéger notre environnement.
Voilà, donc c'est quand il n'y a des espaces verts, conséquences, on a des fortes chaleurs.
Une forte chaleur, des pluies extrêmes à un moment, et il y a des problèmes, des maladies qui vont ressurgir parce que certains vecteurs vont se multiplier à cause soit de la chaleur ou du froid aigu, etc.
Alors, vous parlez d'un programme, bientôt, vous allez commencer les reboisements du boulevard Lumumba.
Oui, ici à Kinshasa, il y a un programme de reboisement du boulevard
Lumumba. Quand est-ce que ça démarre?
Bon, la commission est en train de se réunir, on attend ses conclusions pour qu'on puisse les intégrer dans le plan général d'aménagement qui est fait pratiquement ici au niveau de la ville, qu'on appelle le SOSAC, dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise et le plan particulier de l'aménagement de la zone nord de la ville de Kinshasa, le PPA. Donc, c'est à partir de ces conclusions de la commission constituée, intersectorielle constituée au niveau du ministère de l'Environnement, qu'on pourra maintenant repenser de faire le reboisement du boulevard Lumumba.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans sa parcelle? Comme des espaces publics, espaces verts au niveau du public ne sont plus nombreux, alors à la maison, chacun dans sa parcelle, qu'est-ce qu'il peut faire?
Bon, au niveau de la parcelle, il serait intéressant que chacun puisse planter un arbre, par exemple. Imaginez le nombre de parcelles dans la ville de Kinshasa. Si chacun a planté un arbre plutôt.
Pas seulement à Kinshasa, dans tout le pays,
ou n'importe dans quelle ville. Oui. Vous voyez ce que ça peut faire comme ça serait une ville verte et une bonne ville où le climat ne sera pas trop affecté.
Et la pelouse
La pelouse aussi peut être plantée au lieu que dans les parcelles on mette du béton qui augmente la chaleur crée des îlots de chaleur dans les parcelles. La verdure peut atténuer les effets de la chaleur.
Certains évitent la verdure, il semble que ça suscite des vers qui peuvent...
Bon, c'est question de consulter les agronomes, les spécialistes dans ces domaines qui peuvent vous indiquer quelle pelouse mettre dans sa parcelle. Parce qu'en fait, l'erreur, on croit que les basses couches de l'atmosphère sont chauffées d'en haut par les rayons solaires. Non, la chaleur que nous connaissons part du sol. Lorsque le sol émet la chaleur reçue du rayonnement solaire, et si cette chaleur rencontre une barrière atmosphérique, notamment ici les gaz à effet de serre, qui bloquent la chaleur au lieu qu'elle se dissipe et rentre encore dans les basses couches, c'est comme ça que nous vivons dans des îlots de chaleur.
On va terminer avec patient de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour l'invité.
Quelle est votre question, patient?
Bon, ma question était de savoir, parce qu'il parle de des couverts végétales.
Oui.
Donc, je voulais savoir, bon, le plante possède une aptitude unique que nous connaissons tous, telle que capter l'énergie lumineuse du soleil, extraire des éléments nutritifs, bon, et autres. La question est la même plante est plantée au sol, qui a une capacité à accomplir ses fonctions diverses. Alors, je voulais savoir comment le concept de durabilité agricole traite des questions de qualité de l'environnement et à la fois traite aussi des questions de difficulté alimentaire.
Tu peux reprendre un peu, parce que là, la question, je n'ai pas bien saisi. Tu parles de la durabilité agricole et des questions alimentaires.
Oui.
Je voulais savoir le concept de durabilité agricole.
Oui.
Donc, le concept de durabilité agricole traite à la fois des questions de qualité de l'environnement et aussi à la fois de sécurité alimentaire. Je voulais savoir comment ces concepts de durabilité agricole traitent à la fois toutes ces deux questions.
Oui, mais c'est très simple. Ça dit que vous ne devez pas faire de l'agriculture qui détruit l'environnement. Parce que quand on parle de durabilité ici, c'est que nous puissions préserver notre environnement dans le temps et aussi bien dans l'espace. Avoir des aliments, donc garantir la sécurité alimentaire de la population, c'est une bonne chose, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas des impacts environnementaux de nos cultures. On déboise toute une grande surface pour faire des cultures, mais en déboisant, on empêche à ce que l'évapotranspiration que la végétation qui était là produisait pour l'atmosphère, pour produire des pluies, oui. Et alors, conséquence, il y a déficit hygrométrique, donc de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc petit à petit réduction de pluie et puis après avec le temps sécheresse
et même les cultures vont en pâtir,
donc vous ne pourrez plus cultiver à ce moment-là.
Donc il est important de faire les cultures et de préserver
en tenant compte de l'environnement.
Oui. Bien, Théodore Lokaka, environnementaliste, nous vous disons merci et bonne journée.
Merci à vous.